Bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue. Ici Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au sommaire de l'émission, les droits des élèves de l'Alberta enchâssés dans un guide scolaire.
On voulait un guide pour que tout le monde, tous les élèves, tous les parents, tout le monde qui est impliqué dans la vie scolaire puisse savoir c'est quoi leur droit à l'école et c'est quoi leur droit en général et en plus leur droit comme personne de LGBTQIA+.
Québec lance la saison touristique estivale en offrant des billets d'avion régionaux à 500 $ ou moins aller-retour.
On espère qu'ils vont en avoir assez. Ce serait quand même curieux d'avoir deux personnes qui prennent l'avion, une personne qui paye 500 $ puis l'autre qui est assis juste à côté, qui est à 1200 ou à 1300. Ce serait quand même quelque chose qui serait difficile à comprendre. Fait qu'on souhaite qu'il y ait assez de billets pour tout le monde, pour tous ceux qui voyagent, pour les gens qui se déplacent de la région. C'est une demande qu'on a.
La néo-écossaise de Mattia Roach est de retour au Canada après avoir fait mouche à l'émission Jeopardy. Elle remporte 23 victoires et une bourse de 560 000 $ américains. Et à Halifax, le conseil communautaire du Grand Havre célèbre ses 30 ans d'existence au service du renforcement de la présence francophone en Nouvelle-Écosse.
On était très excités d'avoir un endroit qui nous appartenait, puis que c'était géré par nous et on pouvait décider quand on allait l'utiliser. Ça nous donnait un grand sentiment de fierté.
Bienvenue à Point de vue.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chitika en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
L'Association des juristes d'expression française de l'Alberta et le Comité franco-queer de l'Ouest ont joint leurs forces et viennent de lancer en Alberta un guide qui traite des droits des élèves dans cette province canadienne. Intitulé « Quels sont mes droits à l'école? », ce guide a été produit pour aider, guider et renseigner les adolescents âgés de 12 à 17 ans ainsi que leurs parents sur les droits des personnes de toute orientation sexuelle. Ce guide parle entre autres des droits des allosexuels, des hétérosexuels, du droit à la vie privée et de la lutte à l'intimidation comme de l'exclusion et des accommodements raisonnables. Ce guide a été produit par une équipe multidisciplinaire et intergénérationnelle. Denise Lavallée, directrice générale de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta, Pauline Blais, avocate attitrée à la révision du guide, Rose Eva Forgue-Jenkins du Comité franco-queer de l'Ouest et deux élèves de l'école Michael Jean ont travaillé à la rédaction de ce guide. Rose Eva Forgue-Jenkins du Comité franco-queer de l'Ouest a accepté d'en parler au micro de notre journaliste Vincent Savard, posté à Edmonton.
Bonjour, Rose Eva.
Bonjour.
Pourquoi il était important de créer ce guide-là?
Bien, c'était important parce que il y a beaucoup de lois sur qu'est-ce que les élèves peuvent faire dans les écoles, comment on peut créer des AAH, des alliances allosexuelles, hétérosexuelles. Il y a beaucoup d'informations sur ceci dans, disons, des... Tu sais, c'est écrit d'une manière plus bureaucratique, dans The Education Act, par exemple, et c'est écrit d'une façon que, des fois, les personnes dans les conseils scolaires, les éducateurs, les élèves, pour eux autres, trouver cette information, c'est pas toujours facile. Donc, on voulait un guide pour que tout le monde, tous les élèves, tous les parents, tout le monde qui est impliqué dans la vie scolaire puisse savoir c'est quoi leur droit à l'école et c'est quoi leur droit en général et en plus leur droit comme personne de LGBTQIA+.
Et puis, ça date de combien de temps là, que vous entreprenez ces démarches-là pour établir ce guide-là avec la JEFA, l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta?
C'est une bonne question. Je ne peux pas te dire la date exacte parce que moi, je n'étais pas là. Moi, j'ai rejoint le Comité franco-queer de l'Ouest en mai 2021. Mais le guide, c'était avant, les personnes avant qui ont... ça fait longtemps qu'ils parlent de ceci. S'il fallait que j'estime, je dirais peut-être 2020, peut-être même 2019. Je ne sais pas exactement, mais je sais que c'était Emmett Lamache, le coordinateur à ce temps-là, qui a lancé l'idée à l'AGFA. Et l'AGFA, on est très reconnaissants qui ont dit « Oui, on veut vous aider, on veut vous supporter. » Et c'est comme ça que le guide est arrivé.
Dans ce guide-là, on parle, oui, beaucoup des droits des personnes, comme par exemple des accommodements raisonnables, d'une alliance allosexuelle hétérosexuelle, du droit à la vie privée également. Pour un adolescent de 12 à 17 ans, est-ce que ça peut être intimidant parfois, puis justement d'entreprendre des démarches avec des adultes comme les membres de la direction? Est-ce que vous, le comité franco-queer et la JEFA, va être là pour appuyer les élèves qui auront besoin?
Oui, exactement. Le comité franco-queer, c'est vraiment notre raison d'être. On veut être une ressource pour les jeunes de LGBTQIA+ et leurs alliés dans les écoles. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce guide et on a aussi inclus toutes nos informations de contact, toutes autres ressources pour que si un élève veut faire une demande, qu'on est là pour leur appuyer. Ce guide donne une démarche pour commencer ceci. Par contre, je peux comprendre comment un jeune de 12 ans aller parler à sa direction, dire « je veux une salle de bain de genre neutre », c'est très, très, très intimidant. Donc, on veut vraiment être là pour accompagner n'importe qui veulent faire ces demandes. On veut être là pour aider les élèves, aider tout le monde, les conseils scolaires en plus, peut-être qu'ils vont dire « on a reçu cette demande, on ne sait pas exactement quoi faire ». On veut être là pour aider tout le monde pour qu'on puisse inclure les personnes de LGBTQIA+ de manière pleinement.
Quelles sont les réactions des écoles quand on parle d'alliances allosexuelles, hétérosexuelles, également d'accommodements raisonnables?
Oui, bien, il y a différentes réactions comme on peut imaginer. On est très, très content d'avoir des alliés. Par exemple, l'école Michel-Jean est venue ici pour... et deux élèves ont venu au lancement du guide et ont parlé de comment c'est important pour eux, comment leurs écoles leur supportent. Donc, on est super content d'avoir des alliés avec des écoles comme Michel-Jean qui sont vraiment là pour supporter leurs élèves de LGBTQIA+ et leurs alliés. Et certains qu'il y a d'autres écoles que peut-être qui ont plus de réticence, mais on est ici pour avoir des conversations on a hâte de travailler plus avec ces conseils scolaires dans n'importe quelle façon que ça fonctionne pour eux.
Et puis en terminant, une alliance allosexuelle-hétérosexuelle va-t-elle éliminer progressivement l'intimidation et l'exclusion? Parce qu'on inclut tout le monde dans ces alliances-là. Là. Autant les hétérosexuels comme les homosexuels, tout le monde est inclus.
Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on dit une alliance allosexuelle-hétérosexuelle. C'est vraiment pour tout le monde, les alliés, tout le monde qui est pour la cause de LGBTQIA+. Donc, c'est important pour d'avoir un espace pour que les élèves se sentent sécuritaires et pour les élèves qui sont dans cette AAH et aussi pour les élèves que peut-être, tu sais, ça leur voit pas, c'est pas quelque chose qu'ils sont intéressés, mais au moins, ils savent que ça existe dans leurs écoles. Donc, on sait que c'est une école où est-ce que l'intimidation des personnes de LGBTQIA+, ce n'est pas quelque chose qu'on accepte. Donc, c'est vraiment important d'avoir ceci dans les écoles pour que les jeunes puissent avoir quelque part sécure à aller et qu'on vraiment, on donne l'impression à tous les élèves que c'est vraiment une cause importante et qu'on supporte tout le monde et que tout le monde est accepté.
Merci beaucoup, Rose-Eva Forgue-Jenkins. Merci beaucoup.
Mon plaisir.
Bon, vous allez peut-être vous demander, qu'est-ce donc une personne allosexuelle? Eh bien, le répertoire de l'Université de Sherbrooke au Québec en esquisse la définition comme une personne, et je cite, qui ne se définit pas par les catégories traditionnelles de genre et d'orientation sexuelle. Et le magazine Fugue, ici au Québec, précise que le préfixe allo signifie ni l'un ni l'autre, et qu'allosexuel décrit donc une catégorie de gens qui ne sont pas simples hétérosexuel.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Les Québécois reçoivent depuis quelque temps des cadeaux de leur gouvernement provincial. Serait-ce qu'on serait passé en mode préélectoral? On n'en est pas certain, mais les partis d'opposition affirment que c'est pourtant le cas. Les élections provinciales qui sont programmées pour le mois d'octobre 2022 au Québec. Après un chèque de 500 $ qui sera retourné à plus de 90 % des Québécois pour leur permettre de faire face à l'inflation, voilà que Québec, via son ministre des Transports, François Bonnardel, assisté de Caroline Proulx, ministre du Tourisme, et de la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, annonce que les Québécois pourront prendre l'avion partout au Québec et y faire des allers-retours à 500 $ maximum. Le plan québécois de transport aérien régional, dont les paramètres et limites demeurent nébuleux, lieu sera en place dès le 1er juin. 50 millions de dollars par année et pour 5 ans, voilà ce que cela va coûter aux contribuables, qu'ils en profitent ou non. Imaginez, le trajet entre Montréal et les îles de la Madeleine pouvait facilement coûter entre 1 200 et 1 500 $. Vous le devinez, la saison du tourisme va se prolonger avec ces tarifs qui promettent d'être réduits. La ville minière de Fermont sur la côte nord, ça c'est bien dans le nord du Québec. Là-bas, on espère que la mesure va en attirer plus d'un et peut-être propulser, qui sait, le tourisme hivernal. Les fly-in, fly-out, les travailleurs et travailleuses miniers ne seraient pas en théorie éligibles à cette mesure réservée aux résidents et aux touristes. Notre journaliste Elisabeth Séguin discute avec le maire de la ville de Fermont, Martin Saint-Laurent, de ce plan québécois de transport aérien régional et des effets de cette nouvelle mesure.
Martin Saint-Laurent, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Vous avez eu le temps d'étudier un peu ce qui a été annoncé à la mi-avril. C'est quoi vos premières pensées là, concernant cette initiative-là d'avoir des billets à 500 $?
Tout d'abord, je suis quand même content de voir que le gouvernement veut s'attaquer à la problématique que les billets d'avion sont trop dispendieux pour voyager en région. Regarde, je pense que tout le monde, ça fait l'unanimité. On souhaite que les billets se soient moins chers, qu'on soit capable de se déplacer, que ça coûte pas 1 000 ou 1 200 ou 1 500 $, tout dépendant quand tu réserves pour s'en aller à Québec ou à Montréal. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, dans le programme qui est annoncé, il y a des faits qu'on sait pas. Ils annoncent des billets à 500 $, c'est pas illimité. Il y a un nombre maximum de billets. Je sais pas si ça va être par vol, par jour, par semaine. On n'a pas de données là-dessus. Ça va être important de savoir un peu qu'est-ce que ça va entraîner, puis est-ce qu'on va vraiment avoir la possibilité de les avoir à 500 $, puis est-ce qu'il va en avoir une quantité suffisante pour toutes les personnes qui vont vouloir se déplacer en dehors de la région.
Il faut dire, à Fermont, il y a beaucoup de gens qui se déplacent justement pour différentes raisons, raisons essentielles, raisons médicales, raisons de se promener également. Il y en a qui vont voyager, qui vont voir leurs parents, par exemple, dans d'autres régions du Québec. Donc, le service aérien est extrêmement prisé ici à Fermont, depuis l'aéroport de Wabush, bien sûr. Est-ce que vous avez un peu une inquiétude par rapport au fait que, justement, ce ne sera pas tout le monde qui va pouvoir peut-être bénéficier de ce 500 $-là, qu'il y en a d'autres qui vont devoir un peu... qui vont devoir continuer de payer le plein prix comme avant?
Effectivement, c'est une dynamique là, qu'on ne connaît pas pour le moment. On ne sait pas le nombre de billets. On espère qu'il va en avoir suffisamment, mais tu l'expliques, il y a quand même beaucoup de gens qui se déplacent. Puis à l'occasion, on peut faire venir des gens de la parenté qui peuvent nous visiter. Donc, on espère qu'il va en avoir assez parce que ce serait quand même curieux d'avoir deux personnes qui prennent l'avion, une personne qui paye 500 $ puis l'autre qui est assis juste à côté, qui est à 1 200 ou à 1 300, ce serait quand même quelque chose qui serait difficile à comprendre. Fait qu'on souhaite qu'il y ait assez de billets pour tout le monde, pour tous ceux qui voyagent, pour les gens qui se déplacent de la région. C'est une demande qu'on a. Puis l'autre fait aussi qui aide, c'est d'enlever le maximum par personne par année. C'est le 40% qu'on peut déduire. Ils ont enlevé le maximum. Donc, pour les gens qui voyagent beaucoup, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles dans cette annonce, mais il y a quelques points où c'est que ça devient difficile de se prononcer si on va en avoir suffisamment.
Évidemment, c'est des détails qu'on va pouvoir constater lorsque le tout va être en application à partir du mois de juin, du moins pour les billets à 500 $. Évidemment, on parle des résidents de Fermont aussi qui ont besoin du service aérien pour se déplacer, les gens pour venir ici. Vous l'avez mentionné, les gens, ça se pourrait qu'on ne sait pas encore à quel point les gens vont avoir la possibilité d'avoir accès à ces billets à 500 $-là. Mais il faut se rappeler quand même que les prix demeurent quand même très élevé au moment où on se parle pour se déplacer vers Fermont ou à l'extérieur de Fermont.
Définitivement, les prix sont trop élevés. Ça fait en sorte que les voyages, peut-être, sont moins réguliers. On va éviter des déplacements parce que c'est trop dispendieux. Le programme, bon, ils ont expliqué que ce serait pas pour les travailleurs, ce serait pour les résidents ou les touristes. Donc, j'ai hâte de voir un peu comment ils vont faire ce contrôle-là. Il y a des entreprises qui viennent faire des contrats, puis ont la possibilité d'inscrire leurs travailleurs sur le billet. C'est pas nécessairement la compagnie. Puis, quel genre de contrôle qu'on va avoir là-dessus? Bien, ça aussi, c'est une dynamique qu'on connaît pas. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour réussir à cibler vraiment les résidents et les touristes pour attribuer les billets à 500 $.
Oui, d'ailleurs, c'est intéressant que vous parliez de tourisme, en fait, parce que c'est une des facettes de ce plan-là, c'est de pouvoir faire la promotion du tourisme à travers le Québec, que les gens voyagent à travers les différentes régions pour pouvoir les découvrir. Il y a beaucoup de choses à découvrir et que le transport aérien devienne un moyen pour que les gens puissent justement aller mieux découvrir leur province. Ici, à Fermont, ils ont beaucoup vendu, en fait, dans le point de presse, les îles de la Madeleine, la Gaspésie, des endroits qui sont un peu plus exotiques, qui sont vraiment des destinations touristiques souvent. À Fermont, c'est sûr qu'on a une dynamique différente côté tourisme. C'est surtout le tourisme hivernal qui est mis de l'avant, mais êtes-vous quand même confiant que ça pourrait décider des gens à venir visiter Fermont avec ce programme-là?
Bien, je crois que ça a la capacité de faire une différence. C'est sûr, tu l'expliquais, dans la conférence de presse, c'est pour tout le Québec. Donc, il y a des endroits qui sont beaucoup plus touristiques. Donc, eux, c'est le tourisme qui voient avec ce programme-là d'augmenter. Pour nous, c'est différent un petit peu, mais quand même, c'est à développer. On a des belles possibilités. Je pense que l'hiver, c'est très bien. On a des possibilités de développer le tourisme d'hiver. Puis aussi, en été, pourquoi pas, les pourvoiries, les pêcheurs. Mais je pense qu'il faut travailler tout ça, mais il y a des possibilités. C'est sûr qu'à 500 $ c'est beaucoup, c'est attirant, c'est différent. Parce que quand tu commences un voyage puis que le billet d'avion aller-retour te coûte 1 300 $, ben c'est beaucoup plus difficile de faire peut-être un voyage de groupe ou avoir un déplacement, mettons, on va donner un exemple, que ce soit un organisme qui se déplace pour une fin de semaine ces jours-là, peut-être qu'ils vont voir ça différemment s'il y a des billets beaucoup moins chers que de prendre la route ou voyager ou que des jeunes en compétition dans le Québec à l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Je pense qu'il faut juste voir puis s'assurer qu'on a des billets disponibles.
Il y a aussi la coopérative Trek qui propose des frais, justement, de billets d'avion semblables à ce 500 $-là. On se rappellera dans leur promotion là, de ce qu'ils veulent faire. C'est, par exemple, un billet Wabush-Montréal, c'est aller-retour, c'est 500 $. Donc, c'est quand même dans les mêmes prix. Est-ce que vous continuez d'appuyer Trek dans leurs différentes initiatives présentement? C'est sûr que ça n'a pas été mentionné dans le cadre de cette conférence de presse-là, s'il y avait un soutien ou pas dans le projet de Trek. Mais j'imagine qu'à la ville de Fermont, vous continuez de soutenir ce projet-là?
Définitivement, je crois à ce projet-là, d'avoir une coopérative pour d'aviation pour donner un service à ses membres en réalité, parce qu'on en a plusieurs exemples dans notre communauté, que ce soit la radio, la coopérative alimentaire, Diffusion Fermont fait partie de ça. C'est sûr, on a une pourvoirie aussi. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des belles possibilités. C'est un CA, il s'assure de donner un service à ses membres. Donc, c'est une formule que je crois beaucoup. Effectivement, dans la présentation qu'ils ont faite, dans l'annonce, il n'y a pas de place où ils n'ont pas mentionné qu'ils appuyaient Trek. C'est une déception, mais on va quand même continuer à travailler ce dossier-là parce que j'y crois. Puis, je suis convaincu qu'il y a de la place pour avoir une coopérative d'aviation.
Croyez-vous que ça pourrait devenir un moyen un peu de pallier aux autres billets, en fait, qui sont quand même à prix élevé? Eux, ils veulent offrir des billets moins à prix moindre avec le 500 $ et tout ça. Est-ce que vous croyez que ça pourrait devenir une solution commune là, pour justement les gens de Fermont qui veulent se déplacer et qui malheureusement ne peuvent pas toujours le faire en raison des prix?
J'espère que oui. J'espère que l'idée va poursuivre son chemin. Puis de développer ça pour avoir un meilleur service. On se le cachera pas. Présentement, c'est difficile de voyager la fin de semaine. Le samedi, si tu veux revenir, il y a pas d'avion. Tu dois attendre au dimanche. Donc, d'aller pallier un peu à ce manque de service-là, c'est une belle possibilité. Il faut juste être, je pense, persévérant dans ce projet-là.
Évidemment, c'est un dossier qu'on va suivre à partir du 1er juin. C'est là que ça va être en marche, le nouveau plan en matière de transport aérien régional au Québec pour ce qui est des billets à 500 $. Donc, on aura l'occasion de probablement s'en reparler bientôt. Martin Saint-Laurent, maire de Fermont, merci d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Une jeune néo-écossaise de 23 ans est passée à l'histoire récemment. Mattea Roach a remporté 23 victoires au jeu questionnaire américain Jeopardy, mais aussi une bourse de plus de 560 000 $ américains. Son banquier torontois devrait être lui aussi aux anges. L'exploit de Madame Roach a été suivi de près par les citoyens du Cap-Breton, Elle est néo-écossaise d'origine et les Canadiens, d'un bout à l'autre du pays, ont aussi appris à connaître Mattia Roach. Le parcours de Mme Roach a pris fin le vendredi 6 mai dernier, alors qu'elle a été devancée d'un seul dollar par un autre concurrent de l'émission. Grâce à son exploit, Mattia Roach est maintenant la plus jeune super championne de l'histoire de l'émission et la cinquième de tous les temps. Elle s'est qualifiée pour le tournoi des champions de l'émission Jeopardy, qui sera diffusé à l'automne 2022. Le Conseil communautaire du Grand Havre célèbre ses 30 ans d'existence et l'organisme a marqué le coup en mai dernier lors d'une soirée festive et musicale. Dans les années 1970, les francophones associés au Club français et à la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse ont reconnu la nécessité de fonder un centre culturel dans cette région. L'idée de fonder un lieu de rassemblement communautaire a alors germé. Jean-Guy Deveau, l'un des bénévoles les plus actifs pour la création de ce centre communautaire, l'assure, la tâche n'était pas facile, mais la détermination était grande. Les francophones concrétisent leur projet finalement 21 ans plus tard, en 1991. 30 ans après ses débuts, le Conseil communautaire du Grand Havre poursuit sa mission de rassemblement et de renforcement de la communauté francophone acadienne. Il a célébré son 30e anniversaire à l'école Le Carrefour, laquelle a vu naître une communauté fière, unie et déterminée. Notre journaliste Sébastien Beltran fait son devoir de mémoire en compagnie de l'un des membres fondateurs du Conseil communautaire du Grand Havre, Jean-Guy Deveau.
Depuis 1992, la communauté francophone à Halifax s'est transformée et s'est organisée. Elle le doit en partie au dynamisme de son réseau associatif et en particulier du Conseil communautaire du Grand Havre. Alors celui qui témoigne de cette histoire n'est rien d'autre que Jean-Guy Deveau, l'un des personnages clés dans le combat pour le développement d'une communauté forte et autonome. Il nous explique comment les membres de cette communauté s'arrangeaient pour organiser des événements avant la création du Conseil communautaire du Grand Havre.
Bien, moi, je suis arrivé dans la communauté au début des années 80. Et puis, on avait plusieurs organismes francophones, comme le Club français, le Festival acadien, le Comité régional de la FAN, etc. Et puis, on devait trouver des locaux pour faire des activités comme on aurait pris une salle de l'université ou bien emprunter une salle ou un gymnase d'école, etc. Et puis, on faisait du mieux qu'on pouvait pour faire des activités communautaires pour célébrer la culture.
Après un combat laborieux qui a duré près d'une dizaine d'années, le Conseil communautaire du Grand Havre voit le jour en septembre 1991, en même temps que la première école francophone du Carrefour. Il y a à ce moment-là la naissance d'un conseil scolaire francophone autonome qui s'appuie sur le conseil communautaire pour la gestion de différents services, comme la cafétéria notamment, qui servait pour les écoliers, mais aussi pour la communauté en dehors des heures d'études.
Lorsque la cafétéria n'était pas utilisée par l'école, on faisait des repas, des soirées spaghetti, des choses comme ça. La traditionnelle sucrerie d'érable au printemps, on organisait ça au Carrefour du Grand Havre aussi. On faisait des barbecues communautaires et on faisait venir des spectacles à la salle Georges Cottreau. On avait des films à tous les mois, des films en français, à la salle Georges Cottreau aussi. On organisait des activités sportives au gymnase les soirs. Donc, on était très excités d'avoir un endroit qui nous appartenait, puis que c'était géré par nous, et on pouvait décider quand qu'on allait l'utiliser, Ça nous donnait un grand sentiment de fierté.
Jean-Guy Deveau, qui est très impliqué pour la réalisation du projet depuis le début des années 80, est surnommé affectueusement le maire par la communauté à cause des fonctions et de son implication au profit des francophones. Ce titre est non officiel, bien sûr, mais il traduit bien une réalité, celle d'une communauté qui s'organise pour faire aboutir des projets. Parmi ceux-ci, Jean-Guy ne cache pas sa fierté pour les camps de jour et la crèche, qui connaissent toujours un succès 30 ans après.
L'autre chose, c'est le service de garderie francophone, le petit voilier. C'était le conseil communautaire en collaboration avec le conseil d'école francophone qui gérait la garderie parce que ce n'était pas un service qui était offert par les conseils scolaires à l'époque. C'était un service privé. Donc, le conseil communautaire du Grand Havre gérait l'entité de la garderie du Petit Voilier et puis s'occupait de gérer les employés, les règlements et tout ça. Et une partie du carrefour du Grand Havre était dédiée pour la garderie le Petit Voilier. Donc, ça, c'est deux choses qui ont commencé dès le début et qui continuent maintenant. Même que ça a pris de l'expansion à d'autres endroits physiques de la municipalité.
La communauté s'est structurée depuis toutes ces années et Jean-Guy est fier de voir l'évolution et la multiplication des services offerts, même s'il regrette les difficultés rencontrées pour trouver une relève chez les bénévoles dans le milieu associatif.
Je pense qu'il y a un certain essoufflement. Il y a encore... Du point de vue à recruter de nouveaux bénévoles, c'est moins évident que lorsqu'on travaille de longue haleine pour obtenir le centre scolaire communautaire. L'énergie vive qu'il y avait lorsque la réussite, le projet s'est concrétisé, ça a donné une grosse charge de départ pour implanter... disons, la partie communautaire du projet. Maintenant, c'est plus difficile. Je pense qu'il y a plus de dépendance sur, disons, les employés et moins sur le bénévolat.
Jean-Guy regarde les années passées avec fierté. L'implication et l'obstination de tous ces bénévoles ont été décisifs pour faire de cette communauté fière et déterminée ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Il tient à lui souhaiter un joyeux anniversaire et espère l'avoir célébré encore de nombreux événements.
Bien, j'aimerais de souhaiter un bon anniversaire au CCGH. C'est très valorisant de voir qu'on est encore là. Il y avait une expression lorsque les Acadiens ont fêté leur 375e anniversaire d'être en Acadie. L'expression, c'était « on est encore debout ». Et c'est beau de voir que le CCGH est encore debout et puis qu'il va continuer à évoluer à sa manière.
Eh bien voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. On vous invite à consulter notre site web où vous pouvez lire et écouter tous les reportages produits par des dizaines de journalistes postés à travers le Canada et qui travaillent en français et en anglais. Rendez-vous sur canada-info.ca. Canada-info.ca et je dois souligner, depuis peu, on a aussi une journaliste latino-américaine qui travaille évidemment en espagnol. On ne vous présente à cette émission qu'une infime partie de ce qui est produit chaque semaine. Ne ratez pas ce rendez-vous de l'information locale. Trouvez-nous aussi sur Twitter, Canada LJI, et écoutez toutes nos émissions sur vos plateformes préférées, de même que sur notre site Internet. On remercie nos journalistes cette semaine, Daniel Aucoin, Sébastien Beltran, Élisabeth Séguin et Vincent Savard, de même que leurs invités. Et aussi, merci à notre coordonnateur national, Stéphane Bénard. Merci aux artistes qui nous offrent leur musique. On vous rappelle que cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici, Boris Chassagne, à l'animation et à la réalisation. Revenez-nous la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.